France Inter, 7h30. Et c'est le journal de Sébastien Legénie. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Des députés sur la piste du chlordécone, ce puissant pesticide a contaminé près de 90% des adultes aux Antilles. Un scandale sanitaire qui fait aujourd'hui l'objet d'une commission d'enquête parlementaire. Elle va démarrer ses travaux aujourd'hui. Précision dans un instant. Quel avenir pour les salariés d'Aigle Azur? Le tribunal de commerce examine ce matin les dossiers des repreneurs de la compagnie aérienne. Dossier suivi de près par le gouvernement. On entendra dans ce journal le secrétaire d'État au transport. Dans ce journal également, la rentrée politique de Marine Le Pen qui n'enflamme pas les militants. Nous serons aussi aux Bahamas, ravagés par Dorian auprès de ceux qui ne veulent pas quitter leur île. En Ardèche, le niveau des rivières devient très inquiétant. Et puis de la musique pour finir avec le dernier album de Liam Gallagher, toujours en guerre avec son frère.
À 7h50, au micro de Léa Salamé, c'est aujourd'hui l'eurodéputé La République en marche, Nathalie Loiseau.
France Inter.
Et c'est un poison, Sébastien, pour les sols et pour les hommes. Le chlordécone fait l'objet d'une commission d'enquête parlementaire.
C'est à partir d'aujourd'hui que plusieurs députés vont se rendre sur place aux Antilles, en Guadeloupe et en Martinique, là où 40% des sols sont contaminés par ce pesticide très toxique pour l'homme. Le chlordécone, on le rappelle, a été utilisé pendant 20 ans, de 1972 à 1993, pour traiter les exploitations de bananes. Or, il était considéré comme dangereux depuis les années 70 par l'Organisation mondiale de la santé, soupçonné d'avoir fait exploser le nombre de cancers de la prostate. Alors comment en est-on arrivé là? C'est l'objet justement de cette mission d'enquête qui doit durer une semaine, Célia Kiyré.
Pourquoi cet insecticide a-t-il été autorisé aux Antilles alors qu'il était interdit aux États-Unis? Quels sont les responsables? Comment indemniser les victimes? Les questions des parlementaires fusent. Et il y en a une qui taraude, l'élue socialiste de Guadeloupe, Hélène Vainqueur-Christophe. Où sont passés les stocks de chlordécone quand le produit a été interdit? Ont-ils été enfouis, par exemple, sous les plantations de bananes?
Comment ces produits ont été détruits? Est-ce qu'ils ont été détruits? Il y a des rumeurs qu'il y aurait des produits, une partie du stock qui aurait été enfouie et enterrée. Vous avez encore un risque de contamination qui perdure. Que s'est-il passé? Il faut effectivement que nous ayons une réponse à cette question.
Or, cet insecticide peut rester dans les sols pendant 700 ans. Aujourd'hui, des capteurs d'eau sont fermés, des cultures en pleine terre ne sont plus possibles. La pêche est interdite sur la moitié des côtes. Cette pollution entraîne un lourd préjudice pour la rapporteure de cette commission, Justine Bénin.
Vous imaginez les impacts sur l'agriculteur? En Guadeloupe, on dit attention, on ne peut pas faire de tubercules, on ne peut pas faire de patates douces, ni des ignames, parce que les terrains sont chlordéconnés et nous vivons exclusivement de l'agriculture. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, nos agriculteurs sont menacés.
Et selon l'agence Santé publique France, plus de 90% des adultes de Guadeloupe et de Martinique sont contaminés par le chlordécone, un insecticide potentiellement cancérogène selon l'Organisation mondiale de la santé.
Célia Kiyré, cette commission d'enquête parlementaire rendra ses conclusions début décembre. De leur côté, deux associations, le CRAN et l'association Vivre, lancent une action collective contre l'État français en espérant faire reconnaître dans ce dossier le préjudice d'anxiété.
7h33, journée décisive pour les 1150 salariés d'Aigle Azur.
C'est ce matin que le tribunal de commerce d'Evry examine les offres de reprise de la deuxième compagnie aérienne française placée en redressement judiciaire. Deux possibilités, soit une liquidation avec cessation d'activité, soit la désignation d'un repreneur. Deux offres tiendraient la corde depuis hier soir. Les précisions du secrétaire d'État chargé des transports, Jean-Baptiste Djebari, hier soir sur CNews.
Il y a deux offres. Une offre combinée de transporteurs aériens français et puis une offre d'un transporteur étranger. Le juge, effectivement, dira ce qu'il entend faire pour cette compagnie. Mais je fonde l'espoir que le maximum d'emplois soit préservé et nous en prenons plutôt le chemin. C'est Air France combiné avec un autre transporteur aérien français, le groupe Dubreuil, a priori, un des groupes qui marche très bien au travers d'une filiale qui s'appelle French Bee et qui est développée sur les Caraïbes, qui semble-t-il sont capables de faire une proposition commune.
Voilà, le secrétaire d'État chargé au transport, Jean-Baptiste Djebari, selon nos confrères de l'AFP, le groupe étranger en question, intéressé par Aigle Azur, ne serait autre qu'EasyJet. Le tribunal de commerce devrait très probablement mettre sa décision en délibéré. Les professions libérales dans la rue aujourd'hui contre la réforme des retraites. Avocats, infirmières, médecins, pilotes, hôtesses et stewards sont appelés à battre le pavé par
parisiens cet après-midi pour défendre leur régime de retraite autonome. Un centenaire mort lors d'un incendie dans une maison de retraite, ça s'est passé hier soir dans le 16e arrondissement de Paris. Deux autres résidentes âgées de 96 et 88 ans sont en urgence absolue. Le feu a pris au deuxième étage de cet établissement récent et de haut standing. L'actualité politique maintenant avec un retour ce matin sur la rentrée de Marine Le Pen, rassemblement des cadres du Rassemblement National hier à Fréjus dans le Var avec dans le viseur les municipales, élections compliquées pour l'extrême droite et au final un discours devant un millier de personnes qui est loin d'avoir galvanisé les foules. Maxence Lambrec était sur place.
Marine Le Pen elle-même n'arrive pas à s'enflammer pour ces municipales.
Une élection n'est pas une corvée.
Le formuler, c'est déjà le reconnaître et cette échéance ne fait pas non plus rêver les militants.
C'est vrai que les municipales, l'espoir est limité parce que ça se gérera à l'échelon municipal.
Espoir et enthousiasme limité, même si Marine Le Pen essaie d'en faire une étape cruciale.
Un mousqueton supplémentaire sur la paroi qui mène au sommet, et le sommet, vous le savez, c'est l'Élysée.
Entendez ce silence, pas le moindre applaudissement.
Moi je suis pessimiste parce que forcément...
2022 paraît trop loin et pour le moment inaccessible.
Ah bah le Pen Macron ça fera comme avant parce qu'elle ne sera pas élue, c'est tout.
Vous y croyez, Victor Marine Le Pen?
Ça reste encore à définir.
Mais l'histoire semble écrite d'avance, les mêmes slogans reviennent et la patronne du RN manque de défis et d'adversaires, ses troupes se lassent. Et d'ailleurs, cette université d'été n'en était pas une. 90 jeunes d'un côté, une trentaine de députés réunis à huis clos de l'autre, la moitié des élus régionaux absents, non pas une démonstration de force, mais un coup d'épée dans l'eau. Fréjus, Maxence Lambrec, France Inter.
Il est 7h36, direction les Bahamas. Sébastien, qui soignent encore leur plaie 15 jours après le passage de Dorian.
Le niveau de destruction ici, c'est du jamais vu. Voilà pour le constat du secrétaire général de l'ONU en déplacement ce week-end sur l'île d'Abaco, celle qui a le plus souffert de l'ouragan. Là-bas, l'immense majorité de la population est partie. Il reste aujourd'hui des militaires, des humanitaires et quelques habitants qui refusent d'abandonner leurs terres. C'est le cas par exemple de Bruce McIntosh, 60 ans, il est né, il a toujours vécu à Abaco. Thibault Lefebvre, notre reporter, l'a rencontré dans le cimetière familial ravagé par l'ouragan.
Mon père a été enterré juste ici.
Sa tombe est partie.
Yeah. La tombe de Bruce McIntosh Senior était au centre du caveau familial, face à la mer. Elle est désormais 2 mètres plus loin. Dorian a soulevé les stèles et arraché les pierres tombales.
Les morts se sont réveillés.
That's not a hurricane.
Ce n'était pas un ouragan, cette chose était un démon.
Et la colère de Bruce a trouvé une cible, le premier ministre conservateur Hubert Maynis, qui l'accuse d'avoir abandonné Abaco.
Monsieur le Premier ministre, vous avez demandé aux habitants d'Abaco d'évacuer, mais nous n'avons pas de télévision, nous n'avions pas les moyens de vous regarder. Ils nous ont laissé souffrir. Mon gars, c'est la dernière fois que tu mets les pieds ici.
Bruce va quitter son île. Dans quelques jours, il rejoindra sa famille dans la capitale Nassau.
Je veux y aller parce qu'ils pensent que je suis mort. Je ne les ai jamais appelé, je n'ai pas de téléphone.
I have no phone.
Et une fois ses proches rassurés, Bruce promet qu'il reviendra.
On va reconstruire. Je vais construire une maison sous la terre et quand une tempête viendra, je m'enfermerai.
Sur l'île d'Abaco, Thibault Lefebvre, Gilles Gallinaro, France Inter.
Et puis une nouvelle tempête tropicale, la tempête Umberto a touché la région ce week-end. Elle risque de se transformer en ouragan mais devrait s'éloigner toutefois rapidement des côtes bahaméennes. En bref, toujours à l'étranger, le prix du baril de pétrole qui flambe sur les marchés, plus 10%. C'était la conséquence redoutée suite aux attaques des rebelles Houthis ce week-end sur des installations pétrolières en Arabie Saoudite. Et puis à noter cette grève exceptionnelle aujourd'hui des salariés de General Motors à Détroit, l'un des plus gros constructeurs automobiles américains. 46 000 employés appelés à cesser le travail aujourd'hui par des syndicats qui demandent notamment des augmentations de salaire et une meilleure couverture santé. Ce n'était pas arrivé depuis plus de 10 ans.
C'est un été qui n'en finit pas, Sébastien. prévient grosse chaleur encore pour la semaine à venir avec une sécheresse qui s'aggrave.
85 départements sont concernés par des mesures de restriction d'eau en France. 48 départements sont même en situation de crise et parmi ces départements les plus touchés, l'Ardèche où le débit des rivières a atteint un niveau historiquement bas du jamais vu depuis 30 ans. Le reportage de Pierre-Jean Pluvis de France Bleu Drôme Ardèche.
Et c'est bien sûr en raison de la sécheresse qui se poursuit depuis le mois de juin mais aussi en raison des températures très élevées. Il a fait plus de 42 degrés fin juin en Sud-Ardèche et les débits des rivières se sont effondrés en quelques jours. Plus généralement, et depuis 30 ans, on estime que le débit d'été des rivières du Sud-Ardèche a baissé de 30%. Simon Lalose, chargé de mission au syndicat de gestion des rivières du Sud-Ardèche.
On le met pour l'instant plutôt en corrélation avec l'augmentation des températures qui est très nette, qui a pour conséquence une augmentation des besoins des plantes, une évapotranspiration supérieure et aussi une baisse des précipitations sur les périodes printemps-été qui a été aussi mis en évidence par des analyses statistiques.
Conséquence, le canoë n'est plus possible entre Vauguet et Ruons, pas assez d'eau. C'est un peu mieux dans les gorges de l'Ardèche, comme l'explique Benoît, loueur de canoë à Vallon-Pont-d'Arc.
Les temps de pagaie ont tendance à être maintenant nettement plus longs. Par exemple, quand les gens font le parcours de 24 km en début de saison, ils font des fois en maximum 3 heures. Actuellement, on est plutôt sur une base de 4h30, 5 heures.
Le soutien des barrages de la montagne ardéchoise va se terminer. Il est d'ailleurs très faible en ce moment. Les niveaux vont donc encore baisser s'il ne pleut pas. Et les prévisions de Météo France ne prévoient pas de précipitations marquantes dans les jours qui viennent.
Le reportage de Pierre-Jean Pluvis de France Bleu Drôme Ardèche. Comme promis pour terminer, le retour de l'ancien chanteur du groupe Oasis. C'est l'événement musical de la semaine. Dernier album de Liam Gallagher, Why Me, Why Not, un disque qui sort alors que le groupe vient de fêter, si l'on peut dire, les 10 ans de leur séparation à Paris. C'était au festival Rock en Seine. Depuis, les deux frères Gallagher ne se parlent que par insulte interposée. Et vous allez voir, ça continue quand l'insulte devient un fond de commerce. Mathieu Culeron.
Ce nouvel album est à l'image de Liam Gallagher, direct, sans fioritures, rock, avec une évidente envie d'en découdre. Pour l'ancien chanteur d'Oasis, l'heure n'est effectivement plus aux négociations de groupe.
Quand tu es dans un groupe, comme à la fin d'Oasis, tu passes trop de moments à tergiverser, à gâcher du temps. On n'a pas passé notre temps à se gratter le menton en dissertant sur le son de la batterie. Cet album, c'est droit au but.
Pourtant, sur certains titres comme One of Us, Liam Gallagher semble tendre la main à son frère Noël, mais l'anniversaire de la séparation d'Oasis il y a 10 ans à Paris a laissé des traces.
C'est le pire endroit pour se séparer. Ce qui est arrivé, c'est que Noël s'est transformé en super connard et reste à ce jour un super connard en voulant faire de la musique tout seul. Tout ça pour faire du space disco à la façon de ce putain de Leo Sayer. Voilà l'histoire. Moi, je reste authentique, ici, à Paris.
Why Me, Why Not, le dernier disque de Liam Gallagher semble rendre hommage aux Beatles et aux Stone Roses, un rock taillé pour les stades anglais, un album made in Manchester dans toute sa splendeur.
Voilà, Why Me, Why Not, ça sort ce vendredi, la reformation d'Oasis, c'est pas gagné.
Merci Sébastien Legénie.